ramasse un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour à tous. Un livre, oui, mais quel livre? Avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous faire partager nos coups de cœur, nos dernières lectures et parfois, comme aujourd'hui, des thématiques un peu particulières. Puisqu'on va aujourd'hui, on va parler de la mort, mais pas tout à fait. Je m'explique. Non, on va pas parler de fantômes. On va discuter, enfin, on va parler, je vais vous parler de livres qui traitent de la mort, en fait. En tout cas, de la presque mort, puisqu'on va découvrir que tous nos personnages ne sont pas tout à fait cuits, comme on dit. Donc on va commencer en douceur, si je puis dire, hein, en douceur, par un livre dont j'ai peut-être déjà entendu, vous avez déjà entendu parler, pour ça je vais aller assez vite sur celui-là. C'est Les Ombres de Kerouan, de Nathalie Murray-Zimmerman, à l'École des loisirs. Donc qui est un livre dans les dévoreurs de livres. Donc si vous vous souvenez bien, dans l'histoire, ces deux enfants, leur père les a abandonnés par leur mère est morte et leur père est parti à Londres pour signer des contrats, on ne sait pas trop. Enfin bref, on a l'impression qu'il est un peu déserté et il les envoie en Bretagne chez son oncle. C'est leur oncle en fait, donc Viola et Sébastien, pour les garder. Et c'est une maison très étrange qui se font une joie de rentrer dans cette maison. On va vite s'apercevoir que les choses clochent. Ils n'ont pas le droit de sortir du jardin, n'ont pas le droit d'aller fouiller, d'aller se balader un peu partout. Et leur tante et ainsi que leur fille, donc leur cousine, ils ne les voient jamais. Il ne faut jamais les déranger. Ils sont tout le temps malades. Ils reçoivent la visite d'un médecin. Et toutes les nuits, on entend taper aux portes. On entend des bruits étranges. Il n'en faut pas plus à ces deux gamins de se mettre à chercher un peu ce qui pourrait clocher. Puisque du coup, on voit d'étranges silhouettes. Quand la salle à musique, où il n'y a personne, seulement un piano, se met à jouer du piano alors qu'il n'y a personne. Que Sébastien, son propre frère, prétend avoir vu un Corrigan. Il n'en faut pas plus à cette jeune fille pour comprendre que quelque chose ne va pas. Et on va vite comprendre qu'on plonge dans les légendes bretonnes avec Lankou. Avec Lankou, l'homme à la charrette. Donc pour vous résumer, Lankou, c'est la légende bretonne de la mort, de l'ange de la mort, en fait, qui récupère les cadavres. Donc il ne tue pas, hein, il récupère juste les cadavres sur sa charrette. Et en général, quand on l'entend, si on est bien portant, c'est qu'on va bientôt mourir. Voilà, pour la légende bretonne. Donc c'est un récit qui est très intéressant, avec une atmosphère que j'aime beaucoup. Moi, c'est ces atmosphères de huis clos, un peu fantastiques. Alors, il n'est pas très violent, puisqu'on va vite découvrir qu'il n'y a pas de scène. En fait, il n'y a pas de scène d'horreur, ni rien. Mais c'est une ambiance, voilà, c'est une ambiance du huis clos. C'est un manoir, des personnages étranges. Ce docteur qui semble bien mystérieux quand même, qui semble veiller sur tout le monde. Et même sur les affaires de l'oncle, qui est quelqu'un de très riche. Il y a quand même un manoir, on est... Voilà. Mais quelque chose cloche. Donc un très bon roman qui est dans les dévoreurs de livres de cette année, d'ailleurs. Voilà, un très bon roman fantastique avec une ambiance très 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 particulière. J'aurai encore un livre sur la légende bretonne de Lankou, mais je me le garde celui-là, pour la fin. Je vous expliquerai pourquoi, vous allez comprendre. Alors, un deuxième titre. Encore une fois, toujours dans les dévoreurs il y a quelques années maintenant, alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Donc c'est chez Bayard, c'est Mémor, le monde d'après. Alors, je ne vais pas faire l'insulte, je vais essayer de bien prononcer son nom, mais elle a un nom vraiment dur à prononcer, je trouve. C'est Wyrzykowska Kinga. Voilà, donc voilà, qui en a fait un autre d'ailleurs, dont ma collègue vous a parlé il y a deux semaines autour du sport, si je ne me trompe pas. Mémor. Alors. Il s'aperçoit, Tomek a 13 ans et son frère est mort. Et il s'aperçoit d'une chose, son frère commence à disparaître. Des photos, des souvenirs. Mais il n'arrive pas à mettre la main dessus. Et il se souvient qu'on lui a donné une pierre qui a le pouvoir d'appeler les morts et de leur parler. Pour comprendre. Et en fait, il ne va pas du tout se passer comme prévu puisqu'il va tomber dans le monde d'après, dans le monde des défunts. Lui, le vivant, va aller voir les défunts en sursis, qui n'ont pas encore trouvé leur place. Et là, Tomek s'aperçoit qu'il est en grand danger déjà, parce qu'il est vivant, et surtout qu'en fait, on en veut à sa pierre, et qu'on a attiré ça en piégeant son propre frère. Donc voilà, Tomek dans un monde très étrange. Alors c'est un monde très très baroque. Du coup, puisqu'on va voir des morts célèbres, on va croiser je sais plus qui. Enfin, il y a des poètes, des artistes, des inventeurs, des génies. Plein de gens comme ça. Il y aura plein de petites références qui vont être disséminées un peu partout. Et dans ce monde de la mort où il aura un guide, je sais plus comment il s'appelle par contre, je vous avoue, il aura une espèce de guide qui va essayer de l'aider à traverser les différents mondes, puisque c'est une espèce de planète indépendante, pour retrouver son frère. Et savoir ce qui le menace aussi, du coup, puisque en s'effaçant des photos, ça veut dire qu'il ne devient plus un défunt en sursis, ni un défunt tout court. Il s'efface totalement de la réalité, ce qui est très dangereux. Et du coup, Tomek va devoir s'en sortir et retrouver le monde des vivants. J'ai adoré cette histoire. Alors, j'aime beaucoup les ambiances un peu bizarres comme ça, je reconnais. Hein, voilà, ça, c'est pas une découverte. Mais du coup, j'ai bien aimé les références. Moi, j'aime bien l'écriture. Les références aussi aux défunts en sursis sont parfois très drôles et parfois très... c'est marrant quand on a la référence qui va bien. Et il y a quand même toute une histoire de frère aussi, donc, puisque Tomek cherche à sauver son frère finalement de cette mort, enfin, cette après-mort ou de cette remort. Je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, un très grand roman pour ados, encore une fois. Oui, les romans que je vais vous présenter aujourd'hui, de toute façon, sont ados. Sont très ados en général. Donc voilà. Donc un très bon récit de chez Bayard Jeunesse, Mémoire, le monde d'après. Mon troisième titre, toujours autour de ce thème, la mort, pas tout à fait. Rod Marty, Les Enfants de Peakwood. Scrineo, éditeur que j'adore, hein, vous savez bien. Je ne vais pas me cacher, Scrineo, je dois en présenter trois par mois. À chaque fois que je viens ici, j'en ai toujours un sous le coude. Rod Marty, alors moi j'ai vraiment bien aimé aussi, encore une fois, c'est encore un roman que j'ai adoré. Le résumé de cette histoire serait félicitations, la mort vous offre une seconde chance. Voilà, c'est écrit au dos du livre et je trouve que ça va très bien au roman. Puisqu'on va s'apercevoir dans une petite ville. Alors, on est encore une fois. Alors, ça, c'est une ambiance un peu plus à Stephen King. C'est-à-dire, petite ville, enfermée entre eux. Enfin, pas enfermée entre eux, mais une petite ville qui vit entre eux. Chacun a ses secrets, chacun a ses choses. Et 10 ans plus tôt, il y a eu un accident de bus tragique. Très, très tragique. Cet accident de bus a coûté la vie à énormément d'enfants de la ville. Mais en fait, pas tout à fait. C'est pour ça que je dis ça. Puisque Shaitan, le médecin de la ville, et son père, un vieux chaman indien, donc on est vraiment dans les mythes un peu chamaniques indiens, dans les rites chamaniques indiens, ont fait quelque chose. Et ils ont fait ressusciter les enfants. Presque tous, sauf deux. Voilà, la mort a pris son dû quand même sur la trentaine d'enfants qu'il y avait. Ça a été 28 gamins. Et il arrive un moment où la ville, donc on est à 10 ans plus tard, où la mort redemande ce qui lui a été pris il y a quelques années. Donc voilà, comment sauver les enfants, enfin les adolescents maintenant, et les adolescents qui sont opposés à cette mort inéluctable, hein, à ce destin en fait, vu qu'ils auraient dû mourir il y a 10 ans. Des étranges maladies qui commencent à apparaître, des personnes qui vont se comporter très étrangement, enfin voilà. Les deux personnages qu'on va suivre, donc Shaitan, le médecin et son père, vont savoir ce qui se passe et vont devoir y mettre un terme dans un sens comme dans un autre, si je puis dire. C'est-à-dire que, voilà. Est-ce que le destin aura gagné ou est-ce qu'ils vont pouvoir empêcher ces morts? Donc, ça, c'est un roman qui est un peu plus adulte. Alors là, on monte un peu le niveau. C'est-à-dire que pour les deux premiers, on était sur du 5e, 4e. Là, on va être quand même sur du 3e lycée. Très bon roman autour des rites chamaniques. Voilà. Et ce côté, la mort qui redemande son dû. Et on retourne à Lankou. Je vais garder, j'en ai encore un autre, hein, vous inquiétez pas, j'ai de la marge. J'en ai toujours. François Place, la douane volante. Ah, François Place, la douane volante. Auteur illustrateur de génie, clairement. Un des plus grands noms français. La douane volante. Alors, le personnage s'appelle comme moi, je suis obligé d'aimer déjà. Il s'appelle Gwen. Forcément, j'étais obligé d'aimer. Gwen le Tousseux, ce qui n'est pas mon cas. Gwen le Tousseux, on l'appelle. On est dans la Bretagne 1914. Juste avant la guerre ou même au début de la guerre. Et Gwen le Tousseux, c'est un personnage, comme son nom l'indique, très malade. Et il a appris des magies un peu bizarres. C'est des magies de rebouteux, vous voyez, c'est le rebouteux, quoi. C'est devenu un peu le rebouteux. Mais depuis que son maître, donc le rebouteux qui lui a appris, est mort, Du coup, au village, on lui parle plus trop parce que voilà, on l'aime pas trop. Il est pâle, il est malin, il fait que tousser. On sent bien qu'il va pas passer l'hiver. Et un jour, l'Ankou, le retour, vient le chercher. Et là, il va. Donc, logiquement, il est mort. Hein. Mais sauf qu'il va se retrouver dans un monde étrange. Un monde où tout est payant, si je puis dire, mais se paye différemment. Un monde où il va être. Où son destin sera lié à Yorn, un officier de la puissante douane volante. La douane volante, en fait, ce monde est enfermé par des marais, des sables mouvants et des marais, enfin surtout les sables mouvants, si je me souviens bien. Et en fait, il va y avoir cette douane volante qui empêche tout le monde de s'en aller. Voilà. Et ce jeune garçon va vivre dans cet univers. Et à aucun moment, on va ne savoir si il est mort, si c'est la vie ou la mort qui l'attend. Si c'était le monde d'après, en fait, un peu comme Mémor. Et ce que j'avais trouvé très sympa dans ce livre, c'est qu'on reconnaît là le talent d'un François Place. François Place que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Puisque ce talent d'illustrateur, en fait, ce talent d'illustrateur se retrouve dans ses descriptions, qui sont tout le temps aussi fines. On a vraiment l'impression de se retrouver plongé dans ce monde, puisqu'il y a plein de petits détails. Il nous récite vraiment cette fresque. Cette fresque est magique pour ça, parce qu'on va avoir plein de petits détails comme ça, bout à bout. Et c'est vraiment le côté illustrateur de François Place, encore une fois, parce que voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un très très grand roman, très très beau roman, très fort aussi avec Gwen. Et ouais, cette description, cet univers, il les décrit, il rentre tellement dedans, un peu comme l'Atlas d'Orbée, c'est-à-dire qu'on va se retrouver plongé dans ce monde et on a tous ces codes qui sont marqués. C'est un peu comme un Tolkien, il va nous mettre tous les codes aussi, finalement, de cet univers, même des petits codes parfois. Donc j'avais trouvé ça assez génial. Et voilà, donc ça c'est chez Gallimard, c'est un roman adolescent qui est très sympa. Voilà, roman grands ados quand même, parce que voilà, c'est bien écrit, c'est hein, François Place, c'est quand même quelqu'un qui écrit très très bien, mais c'est un sublime, sublime, sublime roman à lire de toute urgence. Et le dernier, le plus récent quand même, ouais, j'en ai quand même pris un qui était assez récent, parce que les autres, ils sont tous assez anciens, enfin, sauf sous exemple des Kerouan et. Elskrin et qui sont pas trop anciens, c'est La Maison des Reflets. Ah, La Maison des Reflets. Alors ça, c'était un de mes derniers livres. Alors peut-être qu'il sera dans les Dévoreurs. En tout cas, j'ai demandé à ce qu'ils soient en présélection Dévoreurs. Depuis 2022, on a des maisons de départ. Alors, qu'est-ce qu'une maison de départ, hein? Qu'est-ce qu'une maison de départ, vous allez me dire. Et une maison de départ, c'est très simple. C'est le père donc de son père à ce jeune garçon qu'on va suivre, qui a créé un jour une espèce de logiciel et d'intelligence artificielle. Donc c'est chez Syros, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. C'est Camille Brissot, La Maison des Reflets chez Syros, je m'emballe, je m'emballe, qui a créé un logiciel qui recrée en quatre dimensions la personne morte. Voilà, en quatre dimensions, mais aussi avec son caractère. Une perfection physique et de l'âme, par les témoignages, par les infos qu'ils pourront avoir. Et Daniel, le jeune garçon, a grandi avec pas des implants 3D, mais des lunettes 3D en fait. Des trucs 3D qui permettent de les visualiser et de les appeler d'ailleurs, il a beaucoup de pouvoir. Et il a grandi avec ses reflets comme si c'était des amis. Comme si c'était sa famille en fait. Notamment un jeune garçon de 8 ans qui a été son meilleur ami pendant très longtemps parce que la seule règle c'est de ne pas se toucher pour pas de rompre la magie en quelque sorte. Tel un illusionniste, tel un magicien, on ne rompt pas l'illusion comme ça, donc faut pas la toucher, c'est le seul truc. Et du coup ce gamin a grandi au milieu de tous ces reflets qui sont devenus ses meilleurs amis. Il est même tombé un peu amoureux d'un des reflets. Il a vraiment l'impression que c'est le monde normal pour lui. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'ils sont morts ces gens. Il a tout à fait conscience qu'ils sont morts. Mais comme ils ont leur caractère, bah pour lui, ça remplace un peu ses amis, des amis réels. C'est ses amis virtuels, en fait, en quelque sorte. Et voilà. Et lui, il va vivre là-dedans, dans le manoir Edelweiss, pour normalement reprendre la suite de son père, du coup. Donc, il étudie dans cette maison, il fait des choses comme ça. Et là où ce qui va se passer va être un problème, c'est qu'il va rencontrer Violette. En sortant un jour, il va quand même dépasser sa peur de partir et il va rencontrer Violette. Et c'est une jeune fille vivante. Et elle est lumineuse. Elle est imprévisible, mais elle est vivante. Et ça le perturbe énormément. Parce qu'il s'aperçoit, du coup, avec cette rencontre qui l'a un peu marqué, qui le marque même énormément, que tous ses reflets ne sont que des reflets, justement, ne sont pas les vraies personnes. Il s'aperçoit que son jeune ami de 8 ans a toujours 8 ans alors que lui en a 16. C'est vrai que maintenant, il le délaisse un peu au profit de deux autres ados. Mais pareil, et il va commencer à se poser beaucoup de questions d'ailleurs aussi sur cette maison. Il y a des discours qui sont assez similaires entre reflets. Et surtout, quelque chose qu'il ne comprend pas, enfin qu'il va mettre du temps à comprendre d'ailleurs, c'est que normalement, des cérémonies de départ, en fait, il y a des cérémonies de départ, c'est les maisons de départ justement. On accompagne le mort et on l'efface du reflet. Et lui, il ne comprend pas pourquoi on ferait ça, après tout, c'est génial. Et il va commencer à se poser des questions quand même aussi, lui aussi sur la vie, la mort, à cause de cette jeune fille. C'est un super roman, je trouve, d'adolescent. Et c'est un très bon roman aussi sur la mort et l'oubli, enfin, et le souvenir. Est-ce que pour se souvenir, on doit garder ces gens en 4D virtuel ou est-ce qu'on les laisse partir? Et il va rencontrer des personnages qui ont des avis très tranchés, justement, entre sa gouvernante, parfois son père et des gens comme ça, qui ont des avis vraiment différents de ce côté-là. Donc, c'est pour ça, c'est un récit qui est très intéressant, j'avais trouvé, ce côté virtuel, en fait, mettre la technologie pour les morts, en tout cas un peu pour les morts, pour garder les morts en vie, en quelque sorte. Donc voilà, là j'en ai fini. Camille Brissot, Cyros, La Maison des Reflets. Alors peut-être qu'il sera dans les devoirs l'année prochaine, qui sait, je vais demander. Je vous tiendrai au courant. Donc bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture sur ce thème un peu étrange de la mort, mais pas tout à fait. J'espère que vous avez mieux compris pourquoi. N'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque, s'achètent en librairie. Passez une bonne journée, à bientôt.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.